Au menu du grand rendez-vous ce soir, les déclarations diversement accueillies du président français Emmanuel Macron sur des dossiers d'actualité dans certains pays africains, alors qu'elles suscitent irritation et indignation de l'opposition algérienne et pas seulement en Guinée. L'opposition, au contraire, salue la prise d'opposition du dirigeant français. Pourquoi les propos de M. Macron font-ils autant de vagues ? Aurait-il mieux fait de se taire alors même qu'il est souvent interpellé, voire invité à s'exprimer sur certains sujets par des acteurs africains? Nous allons en débattre dans votre émission. Mais en attendant, décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous allons tout d'abord parler de cette autre actualité du jour. Il s'agit des sanctions de la FIFA, la Fédération internationale de football, contre le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Hamad, qui est aussi vice-président de la FIFA. Il est suspendu pour 5 ans de toute activité liée au football par la commission éthique de la FIFA. Et notre invité dans Décryptage ce soir est en direct de Douala. Bonjour Joseph. Bonsoir Joseph-Antoine Bell.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes ancien gardien de but international camerounais. La sanction de la FIFA contre Hamad est-elle selon vous justifiée ou s'agit-il, Joseph-Antoine Bell, d'une décision visant uniquement à l'empêcher de briguer un second mandat à la tête de la CAF en mars prochain?
Vous savez, tout cela est envisageable, mais il n'est pas commode de parler d'un sujet quand on ne maîtrise pas tous les contours. Ça peut avoir l'air d'être une suspension à tête chercheuse, mais je n'ai pas le dossier et dire cela reviendrait à discréditer complètement toutes les instances de la FIFA et ça aussi, ce ne serait pas commode.
Mais je vais peut-être vous donner quelques raisons avancées par la FIFA qui évoquent, entre autres, l'article 15 sur le devoir de loyauté ou l'article 20 qui parle de cadeaux offerts ou autres avantages, ou encore celui 28, l'article 28 qui parle de tournement de fonds de l'édition 2018. Est-ce que vous avez le sentiment que ce dossier de la commission d'éthique de la FIFA était suffisamment solide pour aboutir aujourd'hui à cette décision?
Mais je pense qu'avant de parler de dossier, il faut parler de contrôle. Le véritable problème est que la CAF a été contrôlée et que Hamad, le président Hamad, pourrait très bien estimer qu'il a été beaucoup plus contrôlé qu'à son tour. Donc,
beaucoup plus contrôlé que qui, par exemple, que son prédécesseur, le Camerounais, pendant de longues années président de la CAF.
Forcément, il pensera à son prédécesseur, mais il pensera forcément aussi à d'autres confédérations. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, le problème, c'est que une fois qu'on y est, vous savez, en France, on parle du redressement fiscal, mais le redressement fiscal, il est consécutif à un contrôle. Donc, il faudrait que vous soyez contrôlé. Si vous êtes contrôlé, en réalité, vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous pouvez très bien être contrôlé tous les 2 ans et avoir une société ou un individu à côté qui n'a jamais été contrôlé. Quand vous êtes contrôlé, il faut répondre sur les éléments qui sont trouvés. Or, là, vous citez des éléments qui sont réels. Et une fois qu'on est donc dans le contrôle, ce que vous évoquez, la commission que vous évoquez, n'est pas là, elle, pour juger si elle a été saisie pour des buts politiques ou électoralistes. Elle a un dossier et elle va statuer sur le dossier. Or, si sur le dossier, il y a effectivement des dépenses, vous savez, le détournement n'est pas forcément à son profit personnel. C'est vrai qu'en Afrique, quand on parle de détournement, on pense toujours à enrichissement illicite, ce sont deux choses différentes. Détournement, ça veut dire que de l'argent qui devait servir à acheter des roues de voiture, à acheter plutôt des rétroviseurs, il y a déjà détournement.
D'accord. Soulignons que la FIFA a également condamné Hamad à une amende de 200 000 francs suisses. Si ma conversion est bonne, il s'agit bien de 121 000 millions d'euros. Je souligne également, Joseph-Antoine Bell, que la réaction de la CAF a été la suivante. La CAF et son président prennent acte de ce que l'actuel président n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions. L'élection est prévue en mars prochain, donc Hamad est de fait exclu. Il ne sera plus candidat. Des quatre qui restent en liste, si les candidatures sont validées, lequel vous semble le mieux positionné?
Liliane,
petit pronostic.
Vous faites exactement comme on fait chez nous. Nous sommes en matière juridique et aujourd'hui, le monde, il est juridique ou il n'est pas. Il faut respecter les règles. Vous venez de le dire, quelqu'un qui aurait parié sur Hamad il y a juste deux jours, aujourd'hui, serait obligé de changer son fusil d'épaule.
Mais vous connaissez sans doute les quatre, mais sur lequel des quatre, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Hamad Yahia, l'Ivoirien Jacques Anoma ou le Sud-Africain Patrice Motsepe?
Je pense qu'il serait intelligent et honnête vis-à-vis des uns et des autres de ne rien dire avant même qu'ils ne soient candidats, parce qu'aujourd'hui, ils sont candidats à la candidature.
Oui.
Voilà, ils sont candidats à la candidature. Il va falloir que la commission puisse valider leur candidature. Vous savez qu'aujourd'hui, on va fouiller dans vos antécédents. Il y a des choses que nous ne connaissons pas des uns et des autres et que la commission d'éthique qui va pencher dessus pourrait trouver. Donc, je crois qu'il vaut mieux, Liliane, c'est vrai, vous êtes un peu pressée, mais il vaut mieux revenir dans quelques semaines lorsque les candidatures auront été validées, au lieu de revenir pour me demander à ce moment-là pourquoi celle d'un tel ou de tel autre n'a pas été validée. Nous avons aujourd'hui l'intégrité tchèque qui fait qu'on veut avoir des candidats en étant sûr qu'après leur élection, quelqu'un ne nous sortira pas un dossier.
Joseph-Antoine Bell, très rapide question avec une réponse courte. Alors, comment expliquez-vous le fait que Hamad n'ait pu faire qu'un seul mandat et qu'il soit obligé de se retirer aussitôt?
Mais comment l'expliquer? C'est qu'il y a déjà quelque chose que je pourrais dire à l'endroit de tous, mais à l'endroit des candidats aussi, c'est que le monde a changé. Tout à l'heure, vous évoquiez Issa Hayatou, mais le monde a changé. Aujourd'hui, l'intégrité tchèque est quelque chose qui n'existait pas avant. Ce besoin fondamental de gouvernance et d'intégrité des uns et des autres, des candidats, même pas des dirigeants. Donc, si vous voulez seulement être candidat, on vous réclame de pouvoir montrer patte blanche. Donc, si Hamad n'a pas pu effectuer plus d'un mandat, même pas achever son mandat, c'est que probablement il ne s'est pas suffisamment adapté à cette nouvelle donne.
Merci beaucoup.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Joseph-Antoine Bell, ancien international camerounais, d'avoir été en direct avec nous de Douala dans ce grand rendez-vous dans la rubrique décryptage. Et je vous rappelle que nous allons poursuivre tout de suite notre débat sur les déclarations, les dernières du président français Emmanuel Macron sur certains sujets majeurs et d'actualité en Afrique qui ont choqué certains mais réjoui d'autres. Et nos invités sont Ali Boucherka, militant politique algérien engagé dans le mouvement du Irak, Tierno Monenembo, écrivain franco-guinéen qui est en ligne de Conakry, et en ligne de Douala au Cameroun, Maître Emmanuel Sim, vice-président du MRC, le principal parti d'opposition. Messieurs, bonsoir, vous êtes en ligne, est-ce que vous m'entendez?
Oui, madame. Maître Sim est à Yaoundé et non pas à Douala.
Merci.
Je m'entends très bien.
Merci beaucoup de la précision, Maître Sim. Je ne sais pas si Ali Boucherka nous entend. Pas encore, me fait-on signe pour le moment. Tierno Monenembo, non plus. Je vais commencer donc avec vous, Maître Emmanuel Sim. On a écouté les déclarations du président Macron sur le Cameroun. Il déclare, entre autres, qu'il est peut-être temps que M. Biya pense à passer le pouvoir. En résumé, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que ces déclarations vont dans le sens que vous souhaitiez?
Écoutez, madame, je peux vous dire qu'à titre personnel, j'ai voté contre le président Paul Biya en 1992 à la présidentielle organisée pour la première fois avec des candidats de l'opposition. Ce n'appartenait qu'à moi, M. Biya ne serait plus au pouvoir depuis cette date. Donc, ce qui est en jeu ici aujourd'hui, c'est la durée de nos chefs d'État au pouvoir. Est-ce que nous devons continuer, nous les Africains, à garder au pouvoir des présidents pendant 30, 40 ou 50 ans, même s'ils sont les plus brillants du monde? Beaucoup de Camerounais disent que ce n'est pas normal de rester aussi longtemps au pouvoir. Mais maintenant, l'autre question, c'est de dire, quand c'est le président français qui vient le dire, on va évidemment crier au loup en disant c'est une intervention française.
Il a notamment déclaré que lui aussi, en parlant du président Biya, doit préparer le renouvellement et pacifier son pays, d'autant qu'il y a un autre défi beaucoup plus grand, celui de l'avancée de Boko Haram. Est-ce que vous pouvez répondre précisément à ma question, s'il vous plaît? Commenter les propos de M. Macron. Est-ce que donc vous estimez que ces déclarations vont en droite ligne de ce que vous attendiez d'un président français ou étranger?
Je disais qu'il y avait là deux niveaux de réponse. Le premier, et je suis précis, le premier niveau, c'est de se demander si le président de la France doit ou ne doit pas intervenir, donner des positions sur des questions internes aux pays africains. C'est un vrai débat qui est posé aujourd'hui.
Et quelle est votre réponse?
Non, ma réponse est que nous vivons dans un monde qui est globalisé aujourd'hui. J'ai vu le président Macron prendre position lorsqu'il y a la crise au Liban. Je l'ai vu prendre position sur les questions en Russie. Donc le monde évolue un peu comme cela aujourd'hui, où aucun pays ne vit en souveraineté fermée. Le principe restera toujours, mais ce que Macron dit, c'est des suggestions, ce n'est que des idées qu'il émet. Il ne peut donc pas intervenir dans
les maître Sim, si j'ai bien compris, oui. Si demain le président de votre parti, M. Maurice Kamto, est élu président de la République, vous accepteriez que un président étranger puisse donner son avis sur la politique intérieure du Cameroun?
Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Imaginez, par exemple, que dans un pays, je prends le cas du Cameroun, il se produise un vrai génocide, par exemple, ou quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les autres pays africains ou étrangers vont se taire et se dire « c'est une affaire qui se passe au Cameroun » Je pense que non. Le monde évolue. Je suis contre l'ingérence étrangère, que ce soit bien compris. Et j'ai dit ce que Macron dit, je le considère simplement comme des suggestions qu'il aurait pu faire au président Paul Biya dans le cadre d'une réunion à deux. D'ailleurs, n'oubliez pas, l'année dernière, M. Macron, interpellé à Paris par un activiste camerounais, oui, avait dit qu'il a appelé le président Paul Biya
précisément,
pour
oui,
lui
oui,
demander de libérer M. Kamto. Kamto ne s'est pas plaint.
Et c'était aussi des réactions aussi sur l'affaire du massacre de Garboune. Mais merci beaucoup. Oui, excusez-moi de vous interrompre, maître. On va revenir à vous, évidemment, tout à l'heure. Le temps d'écouter Ali Boucherka. Monsieur Boucherka, bonsoir.
Oui, bonsoir, madame. Bonsoir à tous les compatriotes africains qui nous écoutent en ce moment.
D'accord. Ils vous écoutent. Et nous allons parler des déclarations faites par le président Macron sur votre pays, l'Algérie. On vient d'entendre le Cameroun, où l'opposant représentant du MRC a une réaction mitigée. Mais quelle est la vôtre? On a senti la réaction en Algérie comme si l'Irak était complètement agacé par les déclarations faites par M. Macron.
Alors, c'est le moins que l'on puisse dire d'entendre de la bouche d'un président français, compte tenu de l'histoire tumultueuse de ce pays. Et quand je parle du pays, je parle de la France officielle et pas du tout du peuple français, avec qui on a des liens fraternels, il n'y a pas de problème, le sang mêlé aussi. Alors, ne voir autant d'ingérence dans une politique intérieure et dresser les oreillers à un président qui a été élu, on va dire, par 30% au maximum, selon les chiffres même du régime politique qui en agirait actuellement, est juste scandaleux. Et se permettre aussi de provoquer en disant que j'allais soutenir et j'encourageais le processus démocratique en Algérie, c'est pas une solution que nous acceptons, nous,
mais
en tous les cas.
Laquelle des parties de ces propos vous a le plus choqué? Est-ce que c'est le soutien qu'il apporte clairement au président Tebboune? Est-ce que c'est sa vision du Irak ou peut-être ses propos sur l'Algérie rurale? Qu'est-ce qui vous a particulièrement choqué?
Nous la prenons, tous ces éléments-là, ils sont dans une logique d'ensemble. La logique d'ensemble voudrait que M. Macron est en train de dicter une feuille de route, à la fois pour le président Tebboune, mais à la fois aussi à destination du Irak. Nous, de notre point de vue, ce sont des choses sur lesquelles on doit les régler sur la scène intérieure du pays. Il ne s'agit pas aujourd'hui du président Macron de dire d'un président qui honnit par la population avec un scrutin du 1er novembre sur la nouvelle constitution qui a été validée avec 22% des votants. 22%. Et donc, le plébiscite attendu a été un échec. Nous voyons bien que les propos de M. Macron ne s'inscrivent pas, même pas dans la réalité des choses, ni dans les équilibres qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans la société algérienne. On aurait aimé que M. Macron rappelle peut-être éventuellement aussi qu'il y a un peuple qui se bat et que M. Tebboune n'a pas du tout enclenché une véritable transition politique, puisqu'il y a encore 80 militants et des journalistes et des militants politiques qui croupissent encore en prison. La répression, elle est féroce.
Donc, ce que vous reprochez notamment, M. Boucherka, c'est au-delà de ce que vous estimez être l'ingérence, c'est le fait de n'avoir pas eu des propos équilibrés, c'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'il y a eu un parti pris clair pour le président Tebboune.
Macron, ils ne s'inscrivent pas dans la réalité des choses. La réalité des choses, comme je viens de le dire, c'est la répression féroce, c'est des centaines de militants politiques qui croupissent en prison pour des publications sur Facebook, pour une prise de parole.
Mais s'il avait condamné dans ses propos ce que vous dites, l'arrestation des militants, est-ce que vous seriez moins virulent, vous critiqueriez moins ses propos ?
Non, de toute manière, on a toujours l'habitude au sein du Hirak de dire que toute perspective de changement en Algérie, c'est vrai qu'on nous luttons contre le régime, mais nous ne luttons pas contre l'État et les intérêts fondamentaux de notre pays. Il s'agit aujourd'hui de préserver le caractère souverain de la décision politique. Tous les chemins, effectivement, vont aller vers le chemin de la démocratisation, vers une transition démocratique pacifique entre Algériens. Je dis bien entre Algériens. Donc nous rejetons ces émictions et ces avis qui n'aide pas totalement, en fait, elle n'aide ni le pouvoir, parce que le pouvoir en Algérie, comme vous le savez, utilise aussi une rhétorique nationaliste basée sur une espèce de légitimité historique par rapport au combat qu'on a mené contre la force coloniale française autrefois. Et aujourd'hui, voir que ce monsieur Tebboune, qui était autrefois à tenir des discours nationalistes, se laissait dicter carrément les priorités du moment en disant une évaluation de son action, de dire que en Algérie, eh ben, il faudrait bien que.
Mais excusez-moi, monsieur.
Sur le chemin. Alors ça n'arrange ni le pouvoir de point de vue.
On ignore si c'est. Monsieur Macron a consulté monsieur Tebboune, le président Tebboune, pour faire ses déclarations.
Je ne crois pas parce que monsieur Tebboune, en ce moment, il est dans un état grave en Allemagne, il est en train de se soigner parce qu'il était touché par le Covid.
Donc il n'est pas responsable des propos de monsieur Macron.
Je pense par contre que M. Macron a consulté effectivement, il doit y avoir des contacts réguliers avec la junte militaire, c'est-à-dire le commandement de l'armée, comme on sait en Algérie, c'est quand même eux. Merci. Le pouvoir réel, et M. Tebboune c'est juste la devanture politique, si on peut se permettre de dire ça, parce que c'est ça la réalité.
Merci.
Nous voyons
beaucoup
bien que pendant le processus politique en Algérie, quand M. Bouteflika a été déchu, c'était le chef de l'état-major qui était devant la scène et c'est lui qui a dicté la feuille politique. Merci. À suivre pour le régime. Donc nous voyons bien que le caractère militariste du pouvoir en Algérie reste toujours de mise depuis 1962, depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, je pense que M. Macron voulait faire plaisir à ce commandement de l'armée, histoire peut-être de viser d'autres objectifs stratégiques, notamment la situation au Sahel, dans laquelle l'Algérie est une partie prenante, et tout le reste.
Quoi. Et l'Algérie est partie prenante, mais qui ne joue pas le rôle que certains disent attendre de l'Algérie. On va revenir à vous, M. Boucherka. Pour le moment, nous n'arrivons pas à joindre Tierno Monenembo, écrivain franco-guinéen, à Conakry. Nous espérons l'avoir d'ici peu. Je reviens à vous, M. Emmanuel Sim. Vous avez tenu des propos, je disais, assez mesurés tout à l'heure. Vous avez en quelque sorte relativisé l'intervention de M. Macron. Mais à quelle souveraineté peut-on prétendre lorsque on invite presque un chef d'État à se prononcer sur des querelles, on va dire presque internes à un pays.
Oui, je voudrais vous dire, madame, que de toute façon, pour chaque pays africain, nous devons retenir que c'est au peuple africain eux-mêmes de prendre les décisions concernant leur destin. Ça, c'est un principe sur lequel on ne peut pas tergiverser une seule seconde. C'est à nous, les peuples africains, et à personne d'autre, quand il s'agit de notre avenir commun, de notre destin. Par contre, ce que j'ai dit, on ne peut pas considérer, en tout cas je ne considère pas moi, que ce que le président de la France dit à un président comme le président Paul Biya doivent être une injonction. Le président Paul Biya lui-même a dit que dans le cadre des relations amicales entre la France et le Cameroun, la France peut lui faire des suggestions. Le président Paul Biya l'a dit. Et ce que j'explique, je refuse, madame, cette langue qui est de bois, qui refuse d'admettre que quand Macron, un président français, dit quelque chose qui plaît aux opposants africains, ils disent qu'il a bien fait. Quand il dit quelque chose, par contre, qui ne leur convient pas, il crie à l'ingérence. C'est comme ça tout le temps. Et je pense que c'est la position difficile que la France a aujourd'hui en Afrique, parce que quand elle se tait devant les actions affreuses, devant des atrocités, les Africains eux-mêmes disent mais la
France. On l'accuse de complicité.
De complicité, de se taire. Quand elle prend une décision ou donne un propos, on dit elle n'a pas à intervenir. Non. C'est très difficile d'être la France. Mais ce que moi je veux que les gens sachent, c'est que nous avons eu des relations historiques avec la France.
Merci beaucoup. Pardon, monsieur Maître Singh, on reviendra à vous après cette petite pause. Édouard Béranger-Ning, bonsoir.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous.
Avec vous, les questions des auditeurs à nous inviter. À tout de suite.
À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et le grand rendez-vous ce soir tente de comprendre pourquoi les déclarations du président français Emmanuel Macron sur certains sujets majeurs et d'actualité en Afrique ont choqué certains et réjoui d'autres en revanche. Et nos invités sont Ali Boucherka, militant politique algérien engagé dans le mouvement du Irak, il est en ligne d'Alger, et Maître Emmanuel Singh, vice-président du MRC, principal parti d'opposition au Cameroun, en ligne de Yaoundé. Et nous allons, avant de retrouver nos invités, Édouard, leur poser les questions de nos auditeurs. On va commencer avec celle de Hamed.
Hamed, bien sûr, Liliane, qui demande à M. Boucherka, pensez-vous qu'Emmanuel Macron puisse renouer des liens forts avec l'Algérie après ses propos sur les caricatures du prophète ?
Hamed ?
Allô ?
Allô, oui, M. Boucherka ?
Je vous entends très mal. Vous pouvez juste répéter la question, s'il vous plaît ?
Hamed qui demande, pensez-vous qu'Emmanuel Macron puisse renouer des liens forts avec l'Algérie après ses propos sur la caricature du prophète ?
Je crois qu'en Algérie, en fait, il n'y avait pas vraiment un peu... Cette histoire de n'a pas sollicité vraiment une problématique parce que ça ne touchait pas vraiment à la souveraineté. C'était une question religieuse. On avait l'habitude déjà avec cette conception française de la laïcité qui est plutôt une laïcité assez offensive depuis un glissement, depuis au minimum la présidence de Nicolas Sarkozy. Par contre, ce qui a pu choquer, je considère que c'est plutôt cette dernière déclaration au quotidien Jeune Afrique dans laquelle, effectivement, là, pour le coup, ça concerne directement les intérêts de l'Algérie, c'est une immixtion, et les Algériens, en tout cas, sur les réseaux sociaux, nous voyons bien qu'elle a fait réagir davantage que la question des caricatures, qui était une question, on va dire, assez classique maintenant, dans le monde arabe et le monde africain, et en Algérie particulièrement. C'est-à-dire, c'est pas nouveau, en fait, pour nous. Ce qui est nouveau, c'est de voir des déclarations, une prise de position clair en faveur d'un régime qui, à bout de souffle, contesté par sa population, qui a été aussi discrédité par le verdict des urnes quand une constitution elle est aujourd'hui promulguée avec 20% de votants. Merci. Avec 80% d'abstention. Donc je pense que la question elle est plutôt davantage sur celle-là que sur la question des caricatures.
D'accord. On va évidemment reparler de cela dans quelques instants. Et l'autre question est adressée à Maître Emmanuel Sim, celle de Alassane Edouard.
Celle d'Alassane, Alassane qui se pose la question de savoir à chaque fois qu'on parle de relations bilatérales, M. Emmanuel Smith, entre la France et l'Afrique, c'est la réveille de lointains souvenirs, notamment la France-Afrique. Selon vous, arrivera-t-on un jour à dissocier les relations, politiques et la France-Afrique?
Je pense qu'on va y parvenir un jour. Et je vais vous dire pourquoi. Ce qui s'est passé avec la colonisation française en Afrique, aujourd'hui nous avons des jeunes générations d'hommes politiques, aussi bien en France qu'en Afrique, qui n'ont pas vécu directement ces faits et qui donc n'ont pas le traumatisme que cela a pu causer aux Africains. Parce qu'il est évident que la colonisation a fait beaucoup de dégâts en Afrique. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la France et l'Afrique, ou les pays africains, aient de vrais rapports d'égalité et de partenariat, surtout en matière économique et en matière politique également. Que la France ne s'ingère plus de manière directe, comme elle a pu le faire avant en Afrique, en imposant des présidents, en adoubant certains. Et je pense que la jeunesse française et africaine fera que les relations seront plus saines et seront débarrassées des traumatismes que nos parents et nos grands-parents ont pu vivre. C'est ce que moi je crois et je pense que c'est le sens des propos de M. Macron qui dit que lui n'était pas né au moment de la colonisation et qu'il veut voir plutôt cette relation en avant et non pas avec un rétroviseur.
Merci. Merci à vous, Édouard Béranger-Ning, et on vous retrouve demain avec d'autres questions des auditeurs. Maître Emmanuel Sim, vous parliez tout à l'heure avant la pause de la difficile position, c'est ce que vous déclariez, de la France. Lorsqu'elle n'agit pas, on l'accuse. Lorsqu'elle agit, on fait de même.
Oui, c'est évident. Et je pense que la France a intérêt aujourd'hui à trouver elle-même le moyen de sortir de ce guépier, parce qu'il s'agit en fait d'un vrai guépier. Les Camerounais et les Français ont de très bien relations et cela fait qu'il y a quelque chose de sentimental que la France n'a par exemple pas avec un pays comme le Ghana ou le Nigeria, avec lequel il n'y a pas eu de relation de colonisateurs à coloniser. Donc, il y a là comme...
Donc, vous estimez que cette forme de relation doit persister, qu'en Afrique francophone ou dans certains pays qui ont été des colonies françaises, la France, pour vous, a la légitimité de s'ingérer et de prendre des positions?
Non, c'est le contraire que j'ai dit. J'ai dit que la France n'a aucun droit de s'ingérer dans les affaires des pays africains francophones, et que c'est au peuple africain de prendre leur destin en main. C'est exactement ce que je dis. Mais je fais un constat très simple. C'est que lorsque des gens, comme un homme et une femme, ont vécu dans une même chambre, il est évident que quand ils se séparent, il se posera des questions de rancœur, il se posera des questions des enfants, qui va les garder, qui va garder les meubles. C'est un peu ce qu'on vit. Et je dis qu'avec le Ghana, la France n'a pas ce même type de relation. Elle doit donc avoir l'ingénierie à travers ses dirigeants de sortir de cette France-Afrique et de créer des relations plus égalitaires, des relations plus, je vais dire, entre guillemets, conviviales avec les pays africains et de ne pas s'ingérer précisément dans la désignation des chefs d'État, par exemple. C'est ce que j'ai dit. Par contre, sur le plan, par exemple, humanitaire, il est évident que si dans un pays il se commet des crimes, la communauté internationale est en droit d'avoir le droit de gérance humanitaire. La France peut, je dis, à ce moment-là, on peut discuter, mais sur des questions purement politiques et de souveraineté, aucun pays étranger ne peut avoir aucune légitimité à interférer et à imposer ses idées ou à imposer sa manière de voir.
Mais quand vous le dites, aucun pays n'a le droit d'imposer sa manière de voir. Je prends le cas encore du Burkina Faso. Dans la lutte contre le terrorisme, il y a des candidats engagés dans la présidentielle tenue dimanche qui ont déclaré que s'ils sont élus, ils vont entreprendre des négociations avec des groupes armés. Et à ce propos, le président Macron a dit clairement et sans ambages qu'il n'est pas question de négocier avec avec des groupes armés. Est-ce que cette position claire de la France, à l'opposé de celle d'une partie de la classe politique burkinabé, ne met pas un peu mal à l'aise la position, la France elle-même?
Oui, sur la question burkinabé, évidemment, j'ai lu cette réaction du président Macron, j'en ai été un peu étonné. Si les Burkinabés estiment que le meilleur moyen de sortir du terrorisme islamiste, c'est de discuter avec ces gens, eh bien, les autorités qui seront élues pourront avoir ce dialogue. La France ne pourra pas l'empêcher. De toute façon, elle ne pourra pas. Donc, sur des questions aussi sensibles, j'avoue que la France peut être plus prudente. Le président Macron aurait pu être plus prudent. Il n'a pas été sur une question aussi sensible. Oui, là, c'est ce que je suis d'accord. Par contre, il a risqué.
Il a déclaré avec les terroristes, on ne discute pas, on combat.
Oui, madame, écoutez, malheureusement, il arrive souvent qu'on discute avec les terroristes parce qu'on n'a pas d'autre choix. Voyez-vous, lorsqu'on dit qu'on ne combat qu'avec les terroristes, il n'y a pas d'autre moyen de faire autrement. Si la guerre doit durer 30 ans ou 40 ans, avec des répercussions négatives sur l'économie, sur la vie de la nation, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est aux Africains et à eux seuls, en tenant compte de leur réalité, notamment nos frères burkinabés, ce sera à eux seuls
Merci.
De savoir et de décider de la meilleure manière de sortir du terrorisme islamique. On ne pourra pas la France, ni aux États-Unis, ni à notre pays, de leur imposer la manière à laquelle ils vont résoudre leurs problèmes.
Monsieur Boucherka, vous nous recevez? Allô, Monsieur Boucher. Oui, voilà. Je voulais que vous commentiez, on sorte un peu de l'Algérie, pour commenter ces propos également de Emmanuel Macron sur la Côte d'Ivoire. Propos diversement là aussi interprétés. En Côte d'Ivoire, il a déclaré en quelque sorte que le président Ouattara était obligé de se présenter après la mort du Premier ministre. En revanche, en Guinée, il a estimé que le président Alpha Condé avait changé la constitution uniquement pour ses propres intérêts, pour se maintenir au pouvoir. Et c'est cela qui expliquerait qu'il n'ait pas encore envoyé ses félicitations au président Alpha Condé. Est-ce que ces propos aussi, vous considérez qu'il est allé trop loin?
Effectivement, parce que là, c'est pour le coup, là, on voyons bien la tactique, elle est claire, parce que c'est les deux poids, deux mesures. Là où on appelle au maintien et à la stabilité en Côte d'Ivoire, on appelle à des critiques radicales et extrêmes en concernant la Guinée. Moi, je me demande où. Peut-être que cette versatilité de cette position française et cette ambiguïté dans le traitement des pays correspond par hasard aux intérêts fondamentaux de la France. Parce que là, on est sur un terrain qui n'est pas un terrain moral. C'est un terrain politique qui implique en soi des options stratégiques et de la réelle politique. Donc, quand un régime, quand la France ne trouve pas des issues favorables, ou bien il n'est pas, peut-être, ne trouve pas des appuis dans un régime ou dans une question de président, alors là, on traite comme avant. Moi, ce qui me choque le plus, c'est cette position condescendante en permanence. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on nous berce avec ce traitement entre égaux à égaux, entre Africains et la France aujourd'hui. L'Afrique retrouve sa souveraineté, ils ont des États-nations et tout va bien. Quand la réalité des choses, c'est que M. Macron, contrairement à ses prédécesseurs, il est plutôt sur un style direct. Et d'ailleurs, ça nous aiderait, parce qu'il rend service, parce qu'aujourd'hui, nous voyons les intentions avec un peu plus de clarté, nous, les Africains. Reste à savoir, pour nous, qu'est-ce qu'on fait de nos rapports avec la France et qu'est-ce qu'on fait avec nos régimes autoritaires. Parce que c'est la faiblesse aussi intrinsèque à toutes les nations africaines qui fait que ces gens-là, comme le président Macron ou d'autres aussi, se permettront de tenir de tels propos. Et ça, ce n'est pas une fatalité. Il faudrait absolument qu'un processus de démocratisation s'enclenche entre Ivoiriens, entre Guinéens et partout en Afrique.
Mais sauf que Ali Boucherka, le FNDC, qui est le mouvement qui a organisé des semaines, des mois de manifestations contre le troisième mandat, de même que le principal opposant, celui d'Alain Diallo, ont plutôt bien accueilli la réaction de Monsieur Macron et même demandé, pour le cas du FNDC, des sanctions ciblées contre le régime Condé.
Alors peut-être que
parce c'est aussi une réalité.
Oui, c'est une réalité typiquement africaine d'ailleurs, hein, parce que nous voyons bien que ici peut-être ça correspond aussi aux perspectives politiques que se donne le FNDC. Et à ce moment-là, c'est peut-être pour eux, ils ont vu dans ces déclarations, c'est juste une pression supplémentaire sur le président actuel. Et donc là, peut-être qu'ils espèrent en tirer bénéfice dans les prochains jours et les prochains mois, de telle sorte que le régime en Guinée soit isolé. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils imposeront une nouvelle perspective politique, un changement. Donc vous voyez que parfois aussi, y compris dans la scène intérieure, quand il y a des déclarations d'appui, correspondent parfois aussi à des objectifs purement politiques.
Merci.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de regrettable, parce que pense que pour moi, pour ma part, les partis d'opposition en Afrique doivent s'appuyer sur leur propre force. Et c'est le peuple qui est la force, pas à l'extérieur.
Maître Singh, un mot sur cette déclaration à deux vitesses, comme disait Monsieur Boucherka, de Emmanuel Macron sur la Côte d'Ivoire et la Guinée, alors que pour ces deux pays, il s'agit bien d'une élection controversée suite à un troisième mandat controversé lui aussi.
Oui, Monsieur Boucherka, je pense qu'il a raison entièrement. Il y a là une position absolument compliquée à expliquer. Le principe est que nous ne voulons plus en Afrique des présidents qui changent la constitution en levant le verrou de la limitation des mandats dans leur propre intérêt. Cela s'est vu en Côte d'Ivoire, cela s'est vu en Guinée. Normalement, ni M. Condé, ni M. Ouattara n'auraient dû se représenter. Et effectivement, on comprend un peu mal que dans le cas de la Guinée, on ne présente pas les félicitations au président Condé et que pour le président ivoirien, qu'on prenne sa défense comme un avocat en disant oui, finalement, il était obligé de se présenter, il a fait par deux
en fois. Répétant l'argument avancé par le concerné pour se représenter.
En reprenant l'argument du concerné pour se représenter, non. Il est évident que si le président Ouattara nous explique à nous les Africains que pendant 60 ans en Côte d'Ivoire, on n'a pas réussi à produire tout ce jeu.
Je suis navré de vous interrompre encore, maître, pour une petite pause. On vous revient.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous vous rappelons le thème de ce soir, les déclarations du président français Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité sur le continent, de la Côte d'Ivoire en passant par la Guinée, le Rwanda, l'Algérie. Et nous parlions justement avec vous, Maître Singh, avant la pause, de la Côte d'Ivoire où vous ne compreniez pas pourquoi le président français essaie de justifier la participation de Alassane Ouattara à cette présidentielle pour un troisième mandat.
Oui, je ne comprends vraiment pas, parce que les arguments qu'il donne sont des arguments du concerné. La Côte d'Ivoire, le président Ouattara aurait pu reporter l'élection présidentielle en concertation avec les autres forces politiques de la Côte d'Ivoire et donc ne pas se représenter. Si c'était la seule question qui était posée, il aurait pu ne pas se représenter. Mais voyez-vous, madame, la question est là. C'est qu'on parle le sentiment que pour des intérêts économiques ou d'autres intérêts, la France prenne une position le matin et une position différente le soir sur des questions exactement identiques. C'est ce qui, aujourd'hui, fait que la France n'a plus sa côte d'amour en Afrique et qu'on considère que finalement, les positions qu'elle prend, c'est des positions d'intérêt simplement pour elle-même et non dans l'intérêt des peuples africains. Oui, cette position du président français peut effectivement laisser les Africains croire un peu comme cela.
Mais parlant toujours de cette classe politique ivoirienne, vous critiquez les déclarations de Emmanuel Macron. Pourtant, lorsque le débat sur le troisième mandat s'est présenté, la classe politique, notamment l'opposition et singulièrement Guillaume Soro, a appelé Emmanuel Macron à se prononcer.
Oui, je pense que c'est ça le problème. Je l'ai dit avant, madame, en réalité, les Français, c'est toujours nous-mêmes, les Africains, qui les appelons au secours. C'est toujours nous-mêmes. On doit arrêter de faire ça sûrement. Et la question du troisième mandat la France n'aurait pas dû intervenir, ni même intervenir non plus sur l'explication un peu compliquée, un peu alambiquée de la position du président Ouattara. Oui, M. Touré aurait pu ne pas. Mais c'est ça la question maintenant que je posais au début, madame. Je l'ai dit au début que la, moi, ce qui me gêne, c'est que nous-mêmes, les Africains, lorsque la France dit quelque chose, une partie des Africains applaudit, une autre n'applaudit pas, en fonction de l'intérêt que la classe politique a par rapport à cette position.
Merci.
C'est ça le problème aujourd'hui.
Monsieur Boucherka, pardon, maître, on va écouter Monsieur Boucherka. Alors, c'est quoi la solution aujourd'hui? Est-ce que la France doit s'abstenir de tout commentaire sur n'importe quelle situation qui se produit en Afrique? Est-ce que c'est votre souhait? Monsieur Boucherka? Allô, Monsieur Boucherka? J'ai l'impression que Monsieur Boucherka, on l'a perdu. Maître, alors, je vais vous poser peut-être cette question. C'est quoi votre souhait aujourd'hui, puisque vous-même, vous l'avez mentionné, développé, la France, quand elle intervient, selon les positions qu'elle prend, certains sont d'accord, d'autres estiment que la France ne devrait pas s'exprimer. Quelle est la position réelle que la France doit prendre aujourd'hui vis-à-vis de l'Afrique et notamment de ses anciennes colonies?
Oui. J'ai vu qu'il y a des relations sentimentales entre la France et les anciennes colonies. C'est très compliqué pour elle, je dois le dire. Parce que si on dit aujourd'hui que la France va s'abstenir de tout commentaire lorsqu'il s'agit d'une affaire africaine, quelle qu'elle soit, je peux vous assurer que demain, dans le cas d'une vraie crise en Afrique avec des morts, si la France ne dit rien, nous les Africains allons continuer à tirer sur la France. Je pense qu'en réalité, à mon sens, la France doit simplement s'abstenir d'intervenir sur des questions purement politiques lorsqu'il y a des questions de dévolution du pouvoir.
C'est-à-dire choisir les sujets sur lesquels elle doit s'exprimer?
Oui, absolument. Et qui ne feront pas de polémique. C'est par exemple sur...
Mais les propos de la France, par exemple, sur le massacre de Garbo n'étaient pas politiques, mais pourtant, ils ont aussi fait l'objet de controverses.
Oui, la classe dirigeante camerounaise a estimé que la France n'a pas à donner des injonctions à se mêler dans une affaire camerounaise, dès lors que sa position à elle, la France, n'arrangeait pas le gouvernement
pouvoir
de Yaoundé. Mais dans d'autres cas, lorsque M. Paul Biya est élu président et que l'opposition conteste. Quand la France félicite le président Paul Biya, vous voyez très bien, il est très content. Il dit, voilà, la France m'a reconnu. On lit à longueur de journaux télévisés
Merci.
À la télévision nationale la réaction de la France qui félicite Paul Biya pour montrer que la France le considère comme légitime.
Il y a une sorte de reconnaissance et puis de légitimité. Merci, maître Sim. On a retrouvé M. Boucherka. M. Boucherka, là, vous me recevez d'Alger.
Oui, je vous entends très bien.
Alors, je voulais vous demander, quelle est finalement la position que doit adopter la France? Est-ce que vous êtes partisan, vous faites partie de ceux qui estiment que la France doit s'abstenir, doit se taire, quelle que soit la situation qui arrive dans des pays africains, notamment dans ces anciennes colonies,
alors,
quel que soit le sujet?
C'est, en fait, la question ne se pose pas en termes est-ce que la France va s'exprimer ou pas, mais sur la nature de ces expressions, sur la qualité de ces expressions. La France officielle ferait mieux, en premier chef, d'aider les Africains à soigner leur mémoire, à rendre les archives, à ouvrir les archives, à rendre vérité et justice aux Africains. Deuxième chose, c'est de permettre aussi des mécanismes de développement réels en termes économiques. Et on sait très bien aussi, de l'autre partie, que la classe politique africaine, longtemps encore bernée dans l'illusion de la recherche d'un tuteur officiel, continue encore à se bercer d'illusions que la France pourrait changer la donne en interne. Il faudrait bien qu'à un moment ou à un autre, qu'on coupe le cordon ombilical qui relie l'Afrique à la France et penser plutôt au développement et à la démocratisation par nos propres forces. C'est un mouvement de va-et-vient. La France, qu'elle puisse commencer par les questions de solder l'héritage colonial, de solder les questions de mémoire.
Mais à ce sujet, la France, M. Macron a déclaré avoir beaucoup fait. Il a notamment cité, pour le cas de l'Algérie, le rapport attendu en décembre dernier de l'historien Benjamin Stora.
Oui, mais sauf que c'est de l'ordre de la symbolique, c'est la chose qui fait plaisir. Mais ne soyons pas naïfs non plus. Les questions fondamentales, elles sont toujours pas réglées. Les statuts encore, ils sont encore ambigus en termes de la diaspora algérienne, par exemple, ici en France ou ailleurs. Le rapport aussi de cette question économique, on continue aussi à marchander à coup de clientélisme avec un régime finalement aujourd'hui discrédité depuis au minimum 2 ans par sa propre population. Et donc nous voyons bien que quand il s'agit des options symboliques, d'écrire des choses, ça, c'est pas ça. Nous réclamons simplement des positions substantielles, de changement dans les structures mêmes du rapport de la France à l'Afrique.
Merci beaucoup, Monsieur Moucherka. Ce sera votre mot de fin. On va donner 40 secondes à Maître Emmanuel Singh. Je voudrais vous poser cette question. On observe, par exemple, pour la crise post-électorale aux États-Unis, il n'y a pas d'ingérence, même pas les Nations Unies. Personne ne s'exprime. Pourquoi l'Afrique ne pourrait pas espérer aussi une telle attitude de la communauté internationale ?
Oui, madame, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que vous disiez ça. Il y a des présidents en Europe, ailleurs, qui ont félicité M. Joe Biden, alors qu'il y a encore un contentieux électoral aux États-Unis. Cela veut dire qu'en fait, ces pays ont pris position sans attendre les décisions définitives de la Cour suprême aux États-Unis. Non, c'est une façon de prendre position pour Biden et donc de s'ingérer. Moi, je le vois comme ça. Et
merci.
Donc, oui.
D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on a bien compris votre position, Maître Emmanuel Singh. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vice-président du MRC, principal parti d'opposition au Cameroun. Merci à Ali Boucherka, militant politique et engagé dans le mouvement du Irak. Merci à vous qui nous avez suivis.